Chers auditeurs, quand vous avez froid, est-ce que vous mettez un pull ? Ou peut-être allumez-vous le chauffage ? Autre solution intéressante, brûler 2 millions de dollars en petites coupures pour faire un feu. C'est ce qu'a fait le célèbre baron de la drogue colombien Pablo Escobar pour réchauffer sa fille un jour où elle avait froid. Bienvenue dans Décode, le podcast par Explore Média. Au début des années 90, Pablo Escobar est à la tête du cartel de Medellín et il est l'un des hommes les plus riches de la planète. Ayant fait fortune grâce au trafic de cocaïne, il en devient le premier fournisseur aux États-Unis et détient à cette époque 80% du marché américain. Chaque jour, 15 tonnes de drogue franchissent les frontières et 60 millions de dollars tombent directement dans ses poches. Son business est tellement florissant qu'il dépense alors 2 500 $ par mois rien qu'en élastique pour tenir ses énormes liasses de billets. Au total, le roi de la cocaïne aurait amassé une fortune nette de 30 milliards de dollars au cours de sa carrière criminelle. Ajustée aux cours actuels, cela représenterait aujourd'hui 59 milliards de dollars, soit l'équivalent du PIB de l'Uruguay. D'ailleurs, l'argent arrivait si vite qu'il était impossible pour lui de tout blanchir ou de tout dépenser. Alors que faire de tout cet argent ? Escobar avait sa technique bien à lui. Cacher ses immenses stocks de billets partout là où il le pouvait, dans des coffres, dans des entrepôts, sous terre, sous son lit et même dans les murs de sa propriété. Une méthode qu'on ne vous conseille cependant pas forcément, puisque en conservant son pactole de cette manière, le baron de la drogue perdait jusqu'à 10% de ses revenus, endommagés par la pluie ou grignotés par les rats. Mais ça, c'est un détail pour le roi de la cocaïne. Il était devenu tellement riche qu'il en aurait totalement perdu la notion de l'argent, comme ce fameux jour où il aurait donc brûlé 2 millions de dollars pour réchauffer sa fille qui avait froid. Par ailleurs, Pablo Escobar a parfois été présenté comme un Robin des Bois à la colombienne, après avoir financé, grâce à l'argent de la cocaïne, la construction de routes, d'écoles, d'hôpitaux, de 60 terrains de football, mais aussi d'un quartier tout entier dans les bidonvilles de Medellín, comptant plus de 400 maisons. Un peu loin donc de l'image de baron de la drogue meurtrier et sanguinaire que l'on connaît tous. Mais ne vous laissez pas pour autant berner. Si d'un côté, Pablo Escobar se plaçait en défenseur du peuple, de l'autre, il était prêt à tout pour renforcer son pouvoir et faire la guerre à l'État colombien, y compris tuer des civils innocents dans différents attentats. Pour éliminer l'un de ses ennemis, il n'a par exemple pas hésité à faire exploser un avion de ligne avec ses 110 passagers. La cible, elle, n'était au final même pas présente à bord de ce vol. Sa cruauté ne connaissait pas de limites et le quartier de Medellín avait la réputation d'être l'organisation la plus violente et meurtrière de cette époque. Ainsi, dans les années 80, Pablo Escobar était devenu l'ennemi public numéro 1 des États-Unis et de la Colombie qui déclarèrent la guerre totale au trafic de drogue. En 1984, après avoir fait assassiner le ministre colombien de la Justice, il commence une vie de cavale pour lui et sa famille, se déplaçant de planque en planque. 6 ans plus tard, l'armée colombienne parvient bien à le retrouver et le raid se déroule très mal. 510 personnes meurent dans les affrontements et le roi de la cocaïne parvient quand même à s'échapper. En 1991, pour mettre fin à ce massacre, le gouvernement colombien trouve un arrangement avec lui. Il accepte de se rendre, mais sous plusieurs conditions. Ne pas être renvoyé aux États-Unis et purger sa peine de 5 ans de prison dans des conditions privilégiées. Et quelles conditions ? Il se fait construire sa propre maison, nommée la cathédrale, sur les hauteurs de Medellín. Elle comporte un terrain de foot, un bar, un jacuzzi, des femmes peuvent lui rendre visite. Et bien sûr, il continue le trafic de cocaïne depuis sa cellule dorée. Et c'est lorsqu'il assassine 2 de ses associés que le gouvernement met alors le holà et envoie l'armée pour le transférer dans une vraie prison. Mais à leur arrivée, le bâtiment est vide. Pablo Escobar s'est enfui grâce à un réseau de tunnels souterrains. Ce jeu de chat et la souris prendra fin le 2 décembre 1993. Pablo Escobar est alors abattu par la police, localisé grâce à un appel téléphonique passé à sa famille. Vous l'aurez compris, Pablo Escobar était un homme complexe, aux multiples visages. Voici ce que déclarait son fils Juan Pablo au micro d'Europe 1, interviewé en janvier 2021.
Mon père était quelqu'un de très affectueux avec moi. Il me donnait de très bons conseils, paradoxalement, de l'amour. Mais il ne les appliquait pas en dehors de la maison. Sa vie était pleine de contradictions sur ce point. Mon père, quand j'avais 7 ans et que nous sommes partis en exil au Panama, parce qu'il avait ordonné la mort du ministre de la Justice de Colombie, ce qui a donné une guerre sans pitié entre la police et les narcotrafiquants, mon père m'a dit, au Panama, que son métier était d'être un bandit. Mais ce que je n'avais pas compris à ce moment-là, c'est qu'il avait été l'un des plus grands bandits du siècle. Ça, je l'ai intégré au fil des années.